inside of my brain. Come padre.
Je ne viens pas vraiment de l'espace. Je fais de la divergence mentale. Je me trouve actuellement sur la planète Ogo. J'appartiens à une élite intellectuelle qui se prépare à éliminer les hordes barbares qui ont envahi Pluton. Pourtant, bien que tout soit totalement convaincant, et même si cela me semble réel en tout point, le fait est que Ogo est une élaboration de mon mental. Je suis mentalement divergent. De cette manière, j'échappe à certaines réalités innommables qui me rendent la vie impossible ici.
Et bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs. Laissez-moi m'introduire, en tout bien, tout honneur, moi-même, votre nouveau chroniqueur, et j'espère bientôt votre favori, El Padre. Merci, merci. Donc, vous vous demandez pourquoi ce surnom, pourquoi ce pseudonyme. Alors, la première raison, c'est que Daniel Guichard était déjà pris, malheureusement. Et la seconde, c'est que je pense que notre cher maître d'émission s'en souviendra, c'est que ce surnom me vient de mes années, de nos folles années lycéennes, pas si lointaines que ça, et malgré tout, j'en suis nostalgique de cette époque bénie où le popper c'est la burqa était autorisé encore.
Et bien ouais. Nous étions à l'époque ce qu'on appelait la Sagrada Familia, et la Sagrada Familia avait besoin d'un padre.
Et donc, c'est tombé sur moi. Donc, je suis le nouveau tribun de la plèbe, héritier des Gracques, dépositaire de la qualité de Sacrosanctus, et surtout rédacteur de cette magnifique section qui touchera ce que nos aimables cousins outre-Atlantique appellent le Weirdo. Les adeptes de la langue de Bacon ou de Pope, parce que Shakespeare, ça fait trop hype, aussi appelé anglophile. D'ailleurs, nous ne leur pardonnons pas cette anglophilie. Hein. Je vois pas ce que vouloir se taper des moches et des rousses apporte dans la vie.
Ah, je pourrais t'expliquer après.
Des moches et rousses.
En fait, c'est moche, moche, non. C'est triste. Rousse, en effet. On peut en parler, si vous.
Donc, l'ayant compris, nos amis anglophiles, je le rappelle, je vais vous parler de ce qui est bizarroïde. Bon, je rassure immédiatement les chrétiens démocrates et les ayatollahs que je vais pas vous parler de tout ce qui est bizarroïde. D'abord parce que le CSA nous a pas donné l'autorisation PEGI 18, et ensuite parce que moi-même, malgré une grande curiosité, je n'ai pas testé l'ensemble des pratiques que j'aurais aimé tester. D'ailleurs, à bonne auditrice, talentueuse et souple, j'adresse mes plus aimables salutations. Du coup, en l'absence de telles expériences, j'ai dû par dépit me rabattre sur les mythes urbains, les théories du complot, la cryptologie et autres joyeusetés. Mais, cher coquin, ne vous inquiétez pas, il m'arrivera aussi de digresser vers de la théorie économique ou des finances publiques qui vous paraîtront le plus agréable des rafraîchissements. Après cette courte présentation, j'arrive vers le premier sujet, sujet sur lequel d'ailleurs j'invite les auditeurs à commenter sur le site internet, sur mon mail perso, ou si vous êtes joli sur mon tel, ou si vous êtes très joli sur mon oreiller. Donc, n'hésitez pas. Ce sujet, c'est le mystère soulevé par le malheureux candidat à la présidentielle, Jacques Cheminade. Jacques Cheminade, outre être un fabuleux candidat à la présidentielle, malheureusement, je n'ai pas voté pour lui, je l'avoue, mais c'était un ancien diplômé d'HEC, ancien diplômé de l'ENA, ancien diplomate aux États-Unis. C'était quelqu'un de bien plus sérieux que certains le présentaient, et donc j'ai trouvé cette campagne à son propos d'être un peu décalé de la réalité tout à fait fausse, parce que je trouve que son projet de s'installer sur Mars pour y installer là-bas nos centrales nucléaires polluantes, elles sont pas si bêtes que ça, parce qu'au final on déplace la pollution là où elle sera le moins impactée, l'environnement, bref. Je vous entends déjà ricaner là derrière le transistor, mais sachez que c'est une théorie sur laquelle beaucoup de gens y réfléchissent, et donc j'arrive enfin à ce sujet. Ce sujet grave, ce sujet important, et écoutez-moi bien, la reine d'Angleterre serait à la tête du trafic de drogue mondial. Oui, 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 vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu. C'est une des théories les plus enracinées, les plus documentées. Et après que je vous aurai dévoilé ces quelques faisceaux d'indices, je ne vais pas faire l'entièreté du dossier ce soir, mais une fois que je vous ai dévoilé les quelques faisceaux d'indices que j'ai à ma disposition, vous commencerez vous-même à vous poser des questions. D'abord, précisons, Jacques Cheminade ne l'a pas évoqué ce complot cette année, mais il l'avait évoqué sur sa première campagne présidentielle en 1995. Et ne vous laissez pas tromper par ce canaillou. Ces attaques sur la finance londonienne, qui par contre se sont passées en 2012, cachent ses véritables intentions, celles de mettre à jour la machination de la dynastie des Windsor. Exactement, un petit tin-tin-tin serait de propos. Cette conviction, Jacques Cheminade la tient de son mentor, on n'en a pas beaucoup entendu parler non plus. C'est un Américain, Lyndon LaRouche, un milliardaire, mais néanmoins président du Parti ouvrier américain, cherchez l'erreur, enfin bref, les Américains ne sont pas à cette première contradiction près, et aux idées un peu originales, mais qui a documenté cette thèse. Il est très anti-anglais, malgré le fait qu'il soit américain, contre la finance, et donc en étant anti-anglais, il ne pouvait qu'adhérer à cette fabuleuse théorie du complot. L'idée de ce trafic de drogue a des racines historiques profondes qui datent plus ou moins de l'ère victorienne, qui aussi, je le rappelle, est l'époque de Jack l'Éventreur, de Sherlock Holmes, bref, une joyeuse époque pour vivre à Londres. Et quand j'aurai rajouté le trafic d'opium, vous vous dépeindrez le tableau le plus agréable, en tout cas bien plus agréable que Paris en 2012. Bref. Et donc, ce complot, enfin cette théorie, s'est développée dans les milieux anti-impérialistes, anti-atlantistes, en se fondant sur trois arguments. Écoutez bien, je les introduis seulement. D'abord, les Britanniques ont conquis et asservi la Chine au XIXe siècle à grand renfort d'opium. D'ailleurs, on les appelle les Opium Wars. On sait d'ailleurs que ces junkies de Chinois se dopent à l'héro maintenant, une chance pour l'Occident d'ici 10 ans, qui sait. Opium dont ils contrôlaient la culture après avoir conquis la Birmanie, le Népal et l'Afghanistan pendant donc ces guerres au XIXe siècle. Le deuxième argument, c'est que les rumeurs, les revenus officiels de la couronne britannique ne permettent pas d'expliquer le train de vie de la famille royale. Alors ça, c'est des arguments plus que pragmatiques. Troisième argument, c'est que les conflits dans lesquels le Royaume-Uni s'est engagé au XXe siècle, hors guerre mondiale bien sûr, sont tous, et sans exception, se sont faits dans des zones soit de production, soit de passage de drogue très important. Je vais le détailler. Donc, tous ces arguments, je les tire du livre « Dope Incorporated », aussi appelé « Dope Inc. » de David P. Goldman, qui, vu son nom, est soumis, lui, à une autre théorie du complot. Non, ne rigolez pas, c'est très sérieux. Bref, vous m'aurez compris. Et qui explique comment cela tout a commencé. D'abord avec les guerres de l'opium, qui étaient jusqu'à la Première Guerre mondiale le premier produit échangé mondialement. Quel joyeux luron nos ancêtres, n'est-ce pas? Du coup, je me demande à quand on remonte la création de la fistinière, du coup. Bref. Ces guerres ont permis à l'Empire britannique de conquérir des territoires afin de cultiver en masse de l'opium et d'éliminer leurs concurrents sur ce segment de production de l'opium. Et une fois le monopole acquis, ils ont ni plus ni moins que dealé à des grandes quantités de population, en Chine notamment. Et une fois que les populations étaient bien addictes à l'opium, ils arrivaient tranquillement en disant « c'est nous les dealers, si vous faites pas ce qu'on dit, on vous bute, donc aidez ceci avec quelques fusils, et vous avez conquis la Chine ». Pas compliqué. Pourquoi ne recommencerions-nous pas, j'y arrive, en ce 21e siècle? Je ne sais pas, bref, c'est une stratégie peut-être à y réfléchir pour 2017. Bref. Donc le deuxième point troublant, c'est donc la richesse, comme je disais, de la famille royale britannique. Alors j'ai pris quelques chiffres sur Internet, notamment sur Forbes, magazine connu pour faire l'inventaire des richesses de l'un de l'autre, et du Daily Telegraph, journal pas forcément très sérieux, mais en tout cas fortement diffusé en Grande-Bretagne et consultable facilement sur Internet. Donc officiellement, la fortune de la famille royale britannique s'élève à 349 millions de livres, soit environ 500 millions d'euros à peu près, grosso modo. Mais ce chiffre reste stable au fil des années, 350, 349, 348. Depuis que le magazine Forbes est tenu, donc sur ce chiffre-là, ça fait environ 30 ans, c'est tout le temps resté à valeur continue. Or, il se trouve que leurs dépenses annuelles se trouve à 50 millions de livres par an. Donc si je fais la soustraction, non, ça marche pas. Non, ouais, en effet, il y a un petit problème. De plus, donc c'est le Daily Telegraph qui révèle ça, le patrimoine, en tout cas les actifs de la famille royale britannique, s'élèverait à partir d'informations qu'ils ont obtenues dans les banques, avec les récents achats immobiliers, à 13 milliards de livres. Et là, quid de la provenance ? C'est un point assez troublant, ma foi, c'est celui qui m'a le plus touché, parce qu'on n'invente pas de l'argent. On peut quand on est banquier, mais quand on est famille royale d'Angleterre, malheureusement.
Un cousin banquier.
Oui, sûrement, mais en tout cas, c'est un élément troublant. D'où viennent ces 13 milliards ? Il y a peu de domaines très rentables et le trafic de drogue en est un. Même si je n'encourage aucun des auditeurs à faire du trafic, bien sûr, c'est puni par la loi, c'est pas bien, et notamment lorsque des jeunes crèvent d'overdose, pardon, ou d'autres dépendances, bref. Et le troisième point, ce sont les conflits. Alors j'ai fait un petit inventaire, pas du tout dans l'ordre chronologique, mais intervention des Britanniques en Afghanistan, qui dure actuellement. Afghanistan, premier producteur mondial d'opium, actuellement encore. Et notamment dans les zones sud, contrôlées par, je vous le donne en mille, les armées britanniques. Exactement. Deuxième zone, la Birmanie. Après la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années 60, un protectorat britannique, qui était lui aussi zone de production de drogue. Troisième zone de conflit, les Malouines. Alors les Malouines, vous me direz, c'est des îles perdues dans le sud de l'Atlantique. Il n'y a pas d'opium là-bas, certes, mais c'est une zone de passage prisée des trafiquants de drogue sud-américains. Pour le coup, pas de l'opium, mais pour la plupart du temps, de la cocaïne, des trafiquants de méthamphétamine aussi. C'est un port facile d'accès. Enfin, ce sont des îles où le transit de drogue est très important et où les saisies sont parmi les plus importantes du monde, en tout cas par chaque voyage, chaque saisie. Le quatrième pays, c'est le Salvador, intervention des années 70 avec les Freedom Fighters de Reagan, là aussi pays de passage connu. Et le troisième, c'est l'Irak, qui est peu connu en Europe, parce que la plupart du cannabis européen vient du Maroc, mais l'Irak est aussi un très grand producteur de cannabis pour les pays du Moyen-Orient. Et zone aussi où intervenu, bien sûr, avec la guerre contre Saddam Hussein, et les zones de production vers Bassora, contrôlées par les Britanniques, et Bassora qui est le port sur le golfe Persique. Donc, ces éléments, l'ensemble de ces éléments, de ces faisceaux d'indices, me font penser que cette théorie du complot pourrait s'avérer, si ce n'est vrai, au moins fondée sur quelques-uns d'éléments troublants. Alors, je ne prétends pas que la reine d'Angleterre soit le premier dealer d'héro au monde, mais en tout cas, il y a des faits que l'on peut contester, et en tout cas, des faits qui sont incontestables, qui dataient du début du XXe siècle. Ma chronique va toucher à sa fin. Donc je remercie mes auditeurs d'être restés jusqu'au bout de cette chronique plutôt chiante, j'avoue. Mais cependant, je suis ravi d'avoir fait ça avec mes chers collègues. Je tiens à vous rappeler que l'on vote dimanche toute la journée.
Il te reste 5 minutes.
C'est ça, les bureaux de vote ferment à 18h à Castres, à 20h dans certains endroits de Toulouse. Donc pensez à voter et à bien voter. si vous voyez ce que je veux dire. Parce que moi, présentateur de radio, je ne voterai que pour un candidat, je pense, qui m'a convaincu. Moi, présentateur de radio, j'ai ma petite idée. Moi, présentateur de radio, je sais quel choix j'ai fait. Vous m'avez entendu ? Bref, et pensez aussi à voter les 10 et 17 juin prochains aux législatives, parce qu'il va falloir une assemblée entière pour changer la France.
Merci Thomas.
Merci. Bravo.